7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On devrait plutôt dire maintenant 7 milliards et demi. Aujourd'hui, nous parlons des illettrés du numérique. Nombre de personnes connectées à Internet, plus que triplé en 10 ans, 3 milliards et demi de connectés, mais 60% de la population mondiale n'a pas accès à Internet, soit 4 milliards de personnes. 4 milliards non connectés, plus 3 milliards et demi de connectés, ça fait bien 7 milliards et demi de voisins. Alors, qu'est-ce qu'un illettré du numérique? Eh bien, c'est une personne qui, quel que soit son pays, ne sait pas utiliser Internet, ne maîtrise pas les logiciels de base sur un ordinateur et qui, du coup, est dans une situation compliquée pour des démarches administratives, pour rechercher un emploi et surtout pour s'informer. En France, près d'un quart des habitants ne sont pas à l'aise avec ces technologies. Alors, comment réduire la fracture numérique? Nous allons en discuter avec nos invités. Philippe Marchal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat de la presse sociale, très investi donc dans cette lutte contre ce qu'on appelle aujourd'hui l'électronisme. Je pense que pas beaucoup de gens connaissent la signification de ce nom barbare. Vous avez commandé au début de l'été une étude sur le sujet. Également avec nous Jean Dédier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et directeur d'Emmaüs Connect et de WeTakeCare. Et vous nous direz comment ces structures travaillent à réduire l'exclusion des personnes qui bien souvent d'ailleurs renoncent jusqu'à leurs droits sociaux pour cause de blocage sur Internet. Nous serons également en ligne avec Christelle Nchoa-Sirou en Côte d'Ivoire qui forme les femmes, les jeunes filles au métier du numérique. Elle est présidente de Femmes Éthiques. Là aussi encore un nom barbare, ça veut dire tout simplement technologie de l'information et de la communication. Et puis comme chaque lundi, nos portraits pour l'Afrique qui gagne, on donnera la parole à la Fondation Orange avec Claudine Quadio à Abidjan qui agit pour former, alphabétiser les mamans entrepreneuses via un smartphone. Et quant à vous les voisins, les voisines, si vous êtes très mal à l'aise avec les nouvelles technologies, et c'est pour ça d'ailleurs que vous aimez tant la radio, ou si c'est le cas d'un de vos proches, appelez-nous pour nous parler des difficultés que cela implique. 33 1 84 22 71 71. Pouvons-nous survivre aujourd'hui dans ce monde sans connaître quoi que ce soit du numérique? Eh bien, je vous lis quelques réponses d'auditeurs que vous pouvez évidemment commenter sur Facebook. Ceux qui ont posté maîtrisent le minimum. Osana est à N'Djamena et nous dit au Tchad, quand je suis dans mon village, on me prend pour une personne extraordinaire. Quand j'utilise mon smartphone ou mon ordinateur, je leur demande de toucher le clavier. Ils refusent systématiquement en disant qu'ils n'y connaissent rien. Je ne sais pas comment faire pour les convaincre d'essayer tout simplement. Jean Dédier, cette réaction de distance, d'intimidation ou de honte, je ne sais pas, vous la connaissez cette réaction-là, vous la mesurez en France?
Terriblement. Les freins psychologiques sont les freins les plus importants. Alors, ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a évidemment le manque de compétences. Il y a aussi l'accès. C'est-à-dire que vous avez dans le monde et en France, beaucoup de lieux qui ne sont pas encore connectés. Voilà, il n'y a pas de 3G partout sur le territoire. Et puis après, il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel, alors que ça devient obligatoire. Mais oui, les freins sont extrêmement importants. Et le numérique et la technologie font peur à beaucoup des publics en précarité numérique. Et notre travail au quotidien, c'est de lever ces freins. Et croyez-moi, ce n'est pas si simple.
Justement, on va en parler. Je vous lis un autre message. Charmoc, qui est à Epena, au nord du Congo, Brazzaville. Ce problème touche énormément de personnes. Lorsqu'on était en Master 1 à l'université, pendant les cours de système d'information géographique, beaucoup de mes amis fuyaient leur PC à cause du manque de connaissances informatiques. Et finalement, nombreux ne maîtrisaient pas le logiciel du Map Info que le prof nous avait installé. On voit bien donc le gaspillage que ça peut générer. Galilée, à Kinshasa, dans l'autre Congo. Chez nous, les parents ont du mal à utiliser ordinateur, smartphone. Ils se font aider par les plus jeunes, surtout en milieu professionnel. Et évidemment, ça ralentit un peu beaucoup le fonctionnement de l'administration. Là aussi, encore une conséquence directe. Charlotte, à Lubumbashi, toujours en République démocratique du Congo, dans le sud. L'ordinateur n'impressionne plus vraiment en RDC. Normal, Charlotte est dans la deuxième ville. ville, du pays. Elle est très connectée, mais poursuit-elle, c'est vrai qu'un écart s'établit entre la maîtrise de son usage et l'ignorance totale quand on n'a pas d'équipement. On prend un auditeur qui nous appelle de Boulogne, Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Voilà, on sillonne vraiment la planète aujourd'hui. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Marc.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, ben écoutez, l'Internet, enfin tout ce qui est l'informatique en général, ne fait pas partie de ma planète. Je m'y sens très mal à l'aise. Je trouve d'abord que le monde du papier est beaucoup plus beau, au toucher, à la vue, à l'odeur. Et pour moi, c'est un peu une jungle, si vous voulez, dans le mauvais sens du terme. À savoir qu'il y a des tas de codes, il y a des tas de signes, il y a des tas de référents, il y a des tas de signifiants, si j'ose dire, qui n'évoquent rien.
Mais alors concrètement, c'est amusant parce que pendant que vous parlez, Philippe Marchal a son smartphone qui sonne, mais ça y est, il est concentré, Philippe Marchal. Mais alors du coup, comment faites-vous pour vivre sur votre planète à vous, Marc ?
Eh bien, je vis avec une peau de bête, si j'ose dire.
C'est-à-dire avec une peau de bête.
Attendez, j'ai mal entendu, le téléphone résonne. J'ai mal entendu, avez-vous dit quelque chose ?
Non, vous nous disiez, je vis avec une peau de bête, en quelque sorte.
Mais oui, toute proportion gardée, c'est-à-dire que je connais un minimum, évidemment, puisque... On m'a offert un téléphone digital avec lequel je me débrouille plus ou moins, dont je ne connais qu'une toute petite partie des possibilités, mais avec lequel que j'utilise surtout pour téléphoner, évidemment, mais également pour tout ce qui est Internet, pour la question des textos, la question des recherches, vous voyez.
Sans indiscrétion, est-ce que je peux vous demander votre âge, Marc ?
64 ans.
Oui. Donc, normalement, si ce n'était un problème de moyens ou d'éducation, ce qui ne semble pas être le cas, vous ne devriez pas être un exclu du numérique.
Je n'ai pas les moyens d'acheter un ordinateur, d'une part. Et puis, d'autre part, acheter un téléphone numérique, c'est quand même une somme. Si on veut avoir un appareil quand même d'une certaine qualité, c'est quand même une somme. Mm-hmm. Et puis, après, il y a tout le reste, tous les imprévus qu'on peut avoir, ce qu'on appelle en bon français les bugs et autres imprévus.
C'est ce qui vous fait le plus peur, en fait.
Bah, disons qu'il y a toujours des techniciens, mais il faut trouver le technicien et ça prend du temps. Voilà, donc...
Merci Marc de nous avoir appelé. Philippe Marchal, que vous évoque ce témoignage ? Atypique ou pas ?
Mais il n'est pas du tout atypique. Il représente effectivement un certain nombre de personnes telles qu'on a pu les identifier dans le cadre d'une étude qu'on a fait mener par l'Institut CSA pour avoir une grande enquête sur la situation de l'électronisme, donc, puisque électronisme il y a, même si c'est un peu un barbarisme, mais il signifie quand même ce que ça veut dire. C'est donc vraiment le problème de l'illettrisme numérique. Et Marc nous témoigne d'une situation qu'on rencontre assez fréquemment. Et malgré le fait qu'il ait quand même à sa disposition un appareil, comme d'ailleurs presque 89% de la population en France.
Quand vous dites un appareil, vous parlez d'un smartphone ?
Un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou fixe.
C'est pas un problème d'équipement.
C'est plus. Ça a été longtemps un problème d'équipement, il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça reste bien sûr la totalité de la population n'est pas aujourd'hui équipé forcément d'un appareil capable de rentrer sur le réseau Internet, mais c'est en phase de s'arranger vraiment de façon très concrète.
Mais alors dans ces 20...
C'est l'usage qui devient difficile.
C'est ça, dans ces grosso modo quoi, 20% jusqu'à 25% de Français qui sont mal à l'aise avec les nouvelles technologies. qu'est-ce qu'on trouve socialement comme public?
Alors curieusement, on trouve c'est,
comme génération.
Ça a été la grande surprise en gros des résultats de cette étude, c'est qu'effectivement on se trouve avec une population qui est beaucoup plus vaste qu'on pouvait l'imaginer. En fait, il n'y a pas de typologie absolument précise et qu'on a été surpris par le fait que ça touche pratiquement tout le monde. Toutes les populations, toutes les catégories socio-professionnelles, les hommes comme les femmes, les gens qui habitent en ville comme les gens qui sont à la campagne. Et l'ensemble du dispositif montre qu'en définitive, on n'a pas une catégorie spécifique qui se trouve en situation d'être mal à l'aise avec le numérique.
Une personne de 40 ans active qui a fait des études supérieures n'a statistiquement quand même quasiment aucun risque de se retrouver en situation d'exclusion numérique, non ?
On pourrait le penser, mais en définitive, on s'aperçoit que c'est pas exactement le cas. Il y a des gens qui effectivement sont plutôt à la fois bien équipés sur le plan matériel, sur le plan des connexions, qui ont chez eux une connexion Internet tout à fait efficace, mais qui se trouvent face à certains sites, certaines difficultés, qui se trouvent être mal à l'aise dans l'utilisation d'Internet au niveau du quotidien. Et ça nous a quand même interpellés beaucoup.
Jean Dédier, néanmoins, il y a tout de même aujourd'hui quand même un déterminisme social. Moins on est éduqué, plus on est pauvre, plus on a de risques de se retrouver complètement paniqué par rapport à Internet, par rapport au numérique.
Oui, complètement. Alors, voilà, si on devait essayer de faire un dessin des Français qui sont en difficulté, il y a effectivement les personnes âgées. Tout simplement parce que dans leur parcours éducationnel ou dans leur vie professionnelle, ils n'ont pas utilisé le numérique. Voilà, c'est d'une simplicité évidente. Deuxième nature du public, c'est les gens qui n'ont pas un rond. Parce que même s'ils sont une petite minorité, il y a encore pour 10 ou 15% des Français, dépenser 180 euros ou 200 euros pour un smartphone... on va dire, qui donne des vraies capacités de lecture, bah c'est un handicap, plus les connexions, plus la box. Voilà. Et on voit qu'effectivement, les Français, les plus fragiles budgétairement, bah, le premier frein qu'ils ont, en tout cas les premières limites, c'est qu'ils ont des usages très irréguliers numériques, faute de moyens financiers. Et puis après, il y a effectivement, les gens sont à faible diplôme. Voilà, il y a une espèce de corrélation, pas de diplôme, pas de capacité d'usage, malheureusement, ou peu. Même si chez les jeunes, il y a certaines singularités et notamment cette singularité qui fait qu'on peut avoir beaucoup d'usages numériques, ludiques ou dans le lien social et malheureusement avoir des compétences numériques très limitées quand il s'agit de chercher un boulot ou de trouver un appartement ou d'avoir des interactions clés qui sont aujourd'hui contraintes sur le numérique, je pense aux administrations notamment et on peut même être un peu geek entre guillemets, en tout cas sur des sujets du gaming et être très mauvais dans sa relation numérique.
Le gaming, ce sont les jeux vidéo.
Oui, pardon, les jeux vidéo. Et on peut être malheureusement très en difficulté.
Ouais. Ça peut être assez paradoxal.
Alors, complètement.
Justement, on donne la parole à un auditeur, Thierno, qui nous appelle de Conakry au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Thierno.
Oui, bonjour.
Vous êtes enseignant en multimédia dans une école de journalisme à Conakry, en Guinée-Conakry. A priori, tous vos étudiants maîtrisent la base du numérique, non ?
Oui, effectivement. Mais on constate, dès les premiers arrivés à l'université, rares ceux qui sont initiés à l'informatique. Très rares. On peut recevoir, par exemple, 125 étudiants en journalisme et en communication. Vous pouvez voir environ 10 seulement qui sont initiés à l'informatique.
Mais attendez, en même temps, tous vos étudiants ont un smartphone et sont sur les réseaux sociaux en permanence dans votre génération d'élèves, là.
Effectivement. Là, nous constatons que la plupart pensent que d'ailleurs, l'Internet ne s'arrête qu'à Facebook. Tout ce qu'ils connaissent avec peut-être les smartphones, c'est utiliser Facebook. Ouais. Ils connaissent pas, ils savent pas qu'ils peuvent faire des recherches, ils savent pas qu'ils peuvent trouver les cours qu'on leur donne à l'école, ils savent pas qu'on peut le trouver facilement sur l'Internet. Donc, ils s'intéressent plus qu'à Facebook.
Ouais. Donc, en fait, ils sont privés de l'immensité d'aspects positifs que peut offrir l'Internet. C'est-à-dire qu'ils ne, ils sont, oui, ils sont, on peut dire que ce sont des borgnes, hein, d'une certaine manière, Jean Dédier.
Oui, c'est ça. En fait, ils ont des compétences qui sont liées à ce qu'ils font de manière régulière. Et il y a soit, effectivement, une compétence de fond à l'informatique, comme le disait monsieur, soit, effectivement, appréhender un monde et des interactions qui sont codées et ces codes, il faut les travailler, les apprendre, et ça n'a rien d'évident. Surtout qu'entre Facebook et l'usage d'un mail, ben, ce n'est pas les mêmes pratiques. Voilà.
Merci de nous avoir appelé, Thierno. Vous pouvez bien sûr continuer à témoigner de la situation de vos proches ou de vous-même au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais maintenant qu'on laisse la parole à un reportage en France. 2,5 millions de personnes qui sont exclues de la sphère numérique. Notre reporter Alice Milo s'est rendue dans l'espace 19 numérique au nord de Paris qui propose des cours d'informatique aux très grands débutants. Plus de 700 personnes ont franchi les portes cette année, armées de patience et de volonté.
Tu veux imprimer ?
Oui, je veux imprimer.
Tu fais le contrôle P.
Contrôle.
Contrôle.
Ça, oui. Contrôle.
P.
P.
Voilà. P. Voilà. Printer.
Voilà, et imprimer.
Et il y a une feuille.
Une feuille, yes.
Yes.
Et ben là, disons que c'est le retour des vacances, donc je reprends mes cours d'informatique pour vraiment me remettre dans le bain, me perfectionner un peu plus, et j'ai progressé énormément. Parce que j'ai commencé au mois d'octobre 2017, j'étais nulle. Comme je travaillais dans le prêt-à-porter féminin, dans le commerce, je faisais beaucoup d'heures et je n'avais jamais le temps de m'occuper de mon Internet. Donc j'avais un Internet, j'avais la tablette, je ne savais pas les touches, j'appuyais sur n'importe quelle touche, je ne savais pas du tout m'en servir. Et il a fallu que je me trouve là, encore une fois, bon, en retraite, pour que je puisse me perfectionner et apprendre à me servir, justement, de l'informatique. Et maintenant, je sais manipuler, je sais ouvrir sur Google la boîte de réception et je reçois tous mes messages. Il faut apprendre, il n'y a pas d'âge pour apprendre, c'est ce que je dis. Voilà.
Maintenant, je voulais revenir à mes mails.
Ah bon, d'accord.
Ça, c'est un mail et j'ai détaillé.
Ah, pardon. Je ne sais pas pourquoi tu n'en peux pas, là.
Je suis Judy Caldenossé, je suis responsable coordinateur d'Espace 19 Numérique. On a à peu près un tiers des gens qui viennent chez nous qui ont plus de 60 ans, qui ont fait des métiers manuels toute leur vie, ou alors, des fois on a le truc un peu inverse, des gens, peut-être des cadres, mais qui, un peu à l'ancienne, qui avaient leur secrétaire, qui faisaient tout leur travail administratif, et qui se retrouvent à la retraite à pas savoir taper sur un clavier. Certains qui ont une énorme période de chômage ou des longues maladies, et qui peut-être ont déjà touché un ordinateur, mais c'était il y a 20 ans. Donc qui viennent plutôt en, pas en disant tiens j'aimerais bien apprendre à faire ça, mais plutôt je sais rien faire, je comprends rien, mes petits-enfants, mes enfants, ils essayent de m'aider mais ils s'énervent ou voilà, ou beaucoup de gens qui sont très seuls et qui ont de toute façon personne pour les dépanner. Donc ça vient surtout avec quelque chose d'assez presque comme une angoisse sourde face à un monde qu'ils connaissent pas et qu'ils savent mais pas forcément exactement pourquoi. Il faut vraiment qu'ils commencent à connaître les clés.
Ah, si on n'avait pas cet espace, madame, elle nous a sauvés. Tout maintenant, comment dirais-je, électronique. La caisse de la retraite, il n'y a plus de guichet. Ils ont fermé les portes, c'est fini, ils ne veulent plus recevoir. Mais la porte blindée, quand je dis blindée, elle est blindée, madame. Ils m'ont donné un papier, voilà le site, vous allez sur Internet. Mais nous, on n'est pas nés avec l'Internet. Ce jour-là, j'étais perdue. Panique, la panique totale. Comment je vais faire? Si t'as pas de mail, si t'as pas d'ordinateur, d'internet, ça y est, t'es foutu. Si t'as personne pour t'aider, tu ne peux pas avoir cette attestation, tu ne peux pas avoir aucun papier. Il y a des papiers qui sont importants, on ne peut pas. Après, je suis allée à la mairie, ils m'ont donné les adresses. Ils m'ont dit, voilà, on vient d'ouvrir un, comment on appelle ça ici? C'est
un espace numérique.
Voilà. Ils m'ont aidé déjà pour avoir une boîte à email, il faut l'avoir. Moi, j'aime bien le contact humain. On avait les portes ouvertes. On disait bonjour à la personne, asseyez-vous, elle nous recevait. Mais moi, je suis nostalgique. Mais ensuite, on est obligé.
Donc là, il y a quand même un petit changement qu'on a repéré, c'est qu'avant, on avait un peu ce flow, un peu... de gens qui nous étaient envoyés par ces administrations qui ferment de plus en plus de guichets, et surtout avec la différence d'avant, avec des urgences, avec des ah ouais, moi je vais me faire suspendre mes droits si dans la semaine j'ai pas fait tel truc. Voilà, ça c'est depuis 2-3 ans qu'on a ça, ce qu'il n'y avait pas avant. Exactement comme quelqu'un qui sait ni lire ni écrire sera vraiment handicapé dans sa vie quotidienne. Maintenant c'est vraiment la même chose avec le numérique. Donc pour les démarches d'urgence, nous on a un écrivain public numérique qui va les aider, mais nous notre credo c'est quand même de les rendre autonomes. Donc passer l'urgence, l'idée c'est de leur apprendre. Donc là quand même il y a une sorte de prise de conscience qui s'est fait face à cette violence du changement, d'essayer de vraiment faire des ponts vers des associations comme les nôtres. On a un peu plus de budget, donc on a pu prendre un nouvel animateur, donc pouvoir faire plus de cours. Donc voilà, on va ça va nous aider un peu plus à juguler cette demande. Mais enfin, depuis quelques années, on fait des frustrés à chaque inscription. Ouais.
Mais ce que je comprends pas, comment vous faites pour sortir de l'écran et faire la photocopie?
C'est la machine qui fait tout.
Philippe Marchal, Jean Dédier, vous êtes nos invités aujourd'hui. On parle des illettrés du numérique. Philippe Marchal, vous êtes le président du syndicat de la presse sociale et donc qui a commandé cette étude au CSA au début de l'été sur la situation des illettrés du numérique. On vient de les entendre dans ce reportage. Jean Dédier, vous êtes fondateur et directeur d'Emmaüs Connect et de We Take Care. Donc ce sont des organisations qui, chacune à leur manière, luttent contre l'électronisme. Ça aussi, c'est un nouveau mot avec lequel il va falloir se familiariser. On n'a pas encore parlé du lien avec l'illettrisme. L'illettrisme, Jean Dédier, en gros, en France aujourd'hui, c'est combien de pourcents de la population? De gens qui sont allés à l'école, mais qui ont une réelle difficulté à lire, à écrire, à comprendre ce qu'ils lisent. Philippe Marchal, vous voulez répondre à cette question?
Oui, l'illettrisme, c'est quelque chose contre lequel on s'est battu et on continue de le faire. Et c'est vrai qu'il y a une relation assez évidente avec les problèmes d'électronisme, parce que si on n'arrive pas à bien lire, bien écrire, on va avoir du mal à cheminer dans le monde digital. Ceci étant, pour répondre plus précisément, aujourd'hui, les dernières enquêtes qui ont pu être faites par l'INSEE à l'initiative de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme fait état d'environ 7% de la population qui est en situation de difficulté avec la lecture, avec les savoirs de base. C'est jamais ni tout noir ni tout blanc, bien entendu. Dans ces 7%, il y a des gens qui ne savent pas du tout lire, alors que ça concerne exclusivement dans cette étude des gens âgés de 18 à 65 ans qui ont été à l'école, qui ont parlé français dans leur foyer, et donc on est déjà en dehors de tous les problèmes d'accès à la langue française. Donc on est et il reste encore 7%, ce qui quand même représente 2,5 millions de personnes.
Ouais, et ce qui veut dire évidemment que ces personnes-là sont en première ligne de l'électronisme parce qu'elles ne peuvent pas bien déchiffrer tout ce qui est proposé sur un écran ou sur une tablette. Même si, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe Marchal, le public des exclus du numérique est bien plus large que ces illettrés au sens large du terme. Dans un pays développé comme la France, d'ailleurs la France n'est pas dans une situation spécifique hein, par rapport à ce pourcentage de la population très mal à l'aise avec le numérique, un quart de la population. Quelles sont les conséquences de cette déconnexion subie, encore une fois?
Enfin, les conséquences sont multiples. Quand vous êtes jeune, le défaut de compétences numériques, c'est un frein terrible dans sa recherche d'emploi. C'est aussi très problématique aujourd'hui dans le lien qu'on a avec les administrations qui portent vos droits. Droits aux allocations ou ne serait-ce même que de devoir d'information que vous apportez telle ou telle institution publique qui se passe aujourd'hui exclusivement sur le numérique. Et puis après, j'ai envie de dire, quand le numérique devient la norme de l'échange, y compris dans le lien social, professionnel ou amical, si vous n'êtes pas à l'aise sur le numérique, vous êtes en risque d'isolement. Et cet isolement, il va même jusqu'à devenir quelque part une espèce de communauté de taiseux, puisqu'aujourd'hui, tout est interrogé par le numérique, depuis les services marchands jusqu'à la politique, jusqu'à finalement les forums de voisinage qui vous interrogent sur telle ou telle évolution à proximité de chez vous. Voilà. Donc le risque, il est assez fondamental. Il va de effectivement trouver un boulot à une intégration générale dans la société.
Philippe Marchal, est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir un chiffre sur le nombre de personnes qui sont en situation de renoncer à l'aide sociale, en partie à cause des démarches Internet ?
En ce qui concerne exclusivement l'aide sociale, on n'a pas de chiffres absolument précis. Ce que l'on sait, c'est que on a constaté dans l'étude qui a été menée environ 19% des Français qui ont été amenés d'une façon ou d'une autre à renoncer à quelque chose au cours de l'année passée en raison de la difficulté qu'ils ont à naviguer sur Internet. Ça touche beaucoup de choses, ça touche forcément des démarches administratives, on vient d'en parler. C'est très important parce que la tendance aujourd'hui à la dématérialisation est absolue et complète au niveau de notre administration.
On l'entendait pour les retraités dans le reportage d'ailleurs.
C'est vrai pour les retraites, c'est vrai pour les relations avec l'administration sous toutes ses formes. On a des tas d'exemples de gens, et personnellement vous allez en trouver certainement autour de vous. Obtenir une carte grise aujourd'hui, c'est plus possible de le faire autrement que de le faire par Internet.
Sur le site de la préfecture.
Et des tas de gens sont perdus. Et ce n'est pas forcément le site le mieux fait. Même s'il y en a d'autres qui sont plutôt bien faits, celui-là n'est pas du tout bien fait.
Ça pose un problème, effectivement, tout simplement de citoyenneté, d'injustice sociale. 7 milliards de voisins, appelez-nous si vous êtes dans cette situation, si vous prenez tout simplement conscience du gouffre qui sépare ceux qui maîtrisent la technologie numérique et les autres, dans un monde où plus rien n'est prévu pour ces personnes larguées. Et c'est bien ça le problème. Des gens qui ont en quelque sorte perdu le GPS de leur vie. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Vous devez continuer à chercher du travail. Si vous y renoncez, durant 4 semaines, vos versements seront gelés.
Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi.
Bien, je veux faire appel.
Vous devez postuler en ligne, monsieur.
J'étais charpentier. J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie.
Il faut glisser la souris jusqu'en bas de l'écran et cliquer. Non.
Pas comme ça ?
Non, pas comme ça.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
On vient d'entendre un extrait du très beau film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, dans l'Angleterre libérale, où les coupes budgétaires impitoyables à l'aide sociale, évidemment, sont terribles pour un demandeur d'emploi qui, en plus, devrait plutôt être arrêté du fait de son incapacité médicale à travailler. Le numérique, Internet, a cette particularité, ce paradoxe, Philippe Marchal et Jean Dédier, c'est qu'il représente à la fois le symbole du monde néolibéral, la concentration du grand capital, le creuset des inégalités, et en même temps, c'est un monde de formidables opportunités pour toute une classe modeste, d'accéder à la connaissance, à la formation, pour maîtriser son destin. C'est en ça que le sujet est difficile à appréhender, non, Philippe Marchal ?
La difficulté que les gens ont à appréhender le monde numérique, effectivement, c'est paradoxal. Parce que, notamment en matière d'illettrisme, on en a parlé deux secondes tout à l'heure, c'est aussi un moyen formidable aussi d'accéder au savoir de base, dans la mesure où il y a des programmes qui sont relativement bien établis et qui permettent aux gens d'accéder petit à petit à passer du bon côté de l'illettrisme. Donc on ne peut pas réfuter, on ne résiste pas du tout, ni les uns ni les autres, dans notre démarche au progrès magnifique de numérique, parce que c'est effectivement quelque chose de tout à fait passionnant d'une part et très efficace d'autre part, mais il ne faut pas que l'on puisse laisser de côté une part de population aussi importante que ce qui semble être le cas aujourd'hui.
Vous aussi vous dites, Jean Dédier, il faut juste que tout le monde monte dans le même train finalement, parce que ce numérique a fabriqué des exclus, des personnes qui aujourd'hui sont dépendantes des autres, qui ne l'étaient pas il y a encore quelques années.
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une option d'être un homme ou une femme agile sur le numérique. Et ce qu'il faut dire aussi, et c'est pour ça qu'on encourage tout le monde, quelque part, à y aller. Alors après, il y a aussi l'abus de connexion, mais là, c'est vraiment pas le sujet. C'est que vous avez un accès direct à beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous gagnez votre autonomie beaucoup plus facilement par le numérique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désintermédiation entre vous et puis une information, un produit, une action diverse, et quel que soit le sujet. Donc c'est un outil pour faire travailler les gens sur l'autonomie, et notamment dans le monde de l'insertion, qui est extrêmement riche. Et c'est il faut pas voir, évidemment c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire si vous voulez pas, vous êtes en situation d'exclusion, mais de donner cette chance à tous, c'est aussi un accélérateur d'insertion, notamment pour ces publics qui sont en difficulté au quotidien.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, on vous donne la parole où que vous soyez dans le monde. Aboubakar nous appelle de la région de Tillabéri au Niger. Bonjour Aboubakar.
Bonjour madame.
Soyez le bienvenu Aboubakar, vous êtes président du syndicat des éleveurs, avez-vous dit au Standard. Alors êtes-vous vous-même un homme connecté ou pas?
Oui, je suis un homme connecté, mais malheureusement la connexion a des problèmes chez nous.
Oui.
Oui. Oh, oui. Malheureusement, on n'a pas le téléphone est là, l'internet est là, mais quand même le débit est tellement faible. Même dans la ville de Niamey, à fortiori dans la région de Tillabéri, en dehors des grandes villes, il est difficile d'avoir l'internet. Même le téléphone courant, aujourd'hui le réseau fait vraiment défaut. Heureusement aujourd'hui, même sinon. Et si c'était bien, j'étais un peu hors de la ville que vous arrivez à, vous pouvez m'avoir, sinon c'était impossible vraiment.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous quittiez Tillabéri, que vous, vous mettiez un petit peu en dehors, parce que sinon quoi, les réseaux sont saturés à Tillabéri même?
Oui, tout est saturé, c'est saturé et en même temps vraiment il n'y a pas une extension, ils ne sont pas en train de développer, de moderniser en tout cas les réseaux. Parce que depuis l'installation de ces opérateurs cellulaires, et c'est vraiment, il n'y a pas une amélioration dans la qualité des appels. Et de deux, l'Internet qui est venu au dernier moment aujourd'hui, l'Internet, nous, sur le terrain, en Brousse, les gens ne connaissent même pas l'Internet. Donc, vous voyez, c'est dans les grandes villes qu'on voit l'Internet. Mais même ça, le débit est faible, est très, très faible.
Est-ce que pour vous, en tant que président du syndicat des éleveurs, Internet est devenu un outil important pour travailler?
Oui, c'est devenu un petit peu parce qu'aujourd'hui, c'est avec l'Internet, tu peux, avec les mails, nous avons des correspondants avec des partenaires ou bien des personnes, des gens qui sont à l'étranger qui veulent discuter avec nous, ils nous envoient des mails. Donc, on arrive à discuter avec eux.
Ouais. Trouver des partenaires au développement notamment. Merci beaucoup Aboubakar pardon, de nous avoir appelé de Tillabéri. Je précise quand même que le Niger sur le continent africain, ça fait partie des pays les plus faiblement connectés. Mais il faut rappeler aussi qu'en 2016, 78% de l'Afrique n'avait pas accès au réseau Internet. Ça fait quand même 3 Africains sur 4 environ. Et puis l'écart aussi est très important entre les hommes et les femmes. Oumar nous appelle de Gao au Mali, dans le nord du Mali. Bonjour Oumar.
Bonjour.
Alors Oumar, vous avez dit au Standard que finalement l'arrivée du smartphone, donc où on peut tout avoir sur ce petit écran de l'internet, toutes les fonctionnalités, si le débit est au rendez-vous, ça a créé beaucoup de frustration finalement, notamment chez les jeunes.
Effectivement, c'est vrai. Puisque vu que le débit est très faible sur les ADSL, et puis encore la connexion, elle est très faible.
Je suis désolée, Oumar, la ligne est extrêmement mauvaise, hein, mais pour cause, hein, vous ne nous appelez pas de Bamako, donc les connexions téléphoniques sont également très difficiles. Mais je vais résumer quand même ce que vous avez dit au téléphone, parce que ça me semble intéressant. C'est qu'il y a un immense appétit chez cette nouvelle génération sur le continent africain d'être connecté. Il y a évidemment des facilités de surfer, d'utiliser le smartphone, les applications, parce que vous nous le disiez, Jean Dédier aussi, les applications sont maintenant mieux faites. Hein. Et en même temps, quand le débit n'est pas au rendez-vous, ça rend fou d'une certaine façon finalement. Hein. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Oumar. Vous pouvez continuer de nous appeler si le réseau téléphonique le permet. 33 1 84 22 71 71. On va parler des pistes d'action. Qu'est-ce qui est fait en France? Quels sont aussi les pays modèles pour résoudre l'exclusion numérique juste après Balogi, l'hiver indien.
À son radiateur. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Paris et sa couronne, Paris, chambre de bonne, boulevard large comme le fleuve, peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat, les papiers, c'est le Graal, Bénonville à la verticale, les assos évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre, bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne.
C'est l'hiver indien chez 7 milliards de voisins et nous on parle des exclus du numérique aujourd'hui, quel que soit le pays où vous recevez cette émission via la radio. Partout dans le monde, il y a encore des exclus du numérique, il ne faut pas l'oublier. La situation n'est pas idyllique comme dans toutes les grandes capitales et encore même dans les grandes capitales. Ça n'est pas simple de maîtriser les outils, y compris quand on est équipé à la maison. C'est ce qui ressort d'ailleurs de l'étude qui a été commandée au CSA en France. Philippe Marchal, vous êtes le président de du syndicat de la presse sociale et vous nous disiez qu'effectivement les personnes issues, les personnes victimes de l'électronisme, comme on dit aujourd'hui, font partie de publics très, très variés. Alors aujourd'hui, quel est le plan pour les uns et pour les autres, pour Jean Dédié, Emmaüs Connect, association We Take Care? Quels sont les moyens à mettre en œuvre? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour que tout le monde monte dans le même train numérique? Jean Dédié.
Ce qui est essentiel, c'est de créer ou de développer des réseaux d'aidants numériques. Et la particularité de cette mission, c'est qu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle parce que vous avez d'un côté des acteurs sociaux, voilà, qui ne sont pas qui sont pas de manière intuitive des experts numériques ou des formateurs numériques.
Voilà. Et vous pensez par exemple aux assistantes sociales,
oui,
qui n'ont pas vocation.
Exactement, c'est l'action sociale institutionnelle, c'est l'action sociale qui est dans les réseaux associatifs, voilà, qui n'est pas équipée, pas informée, et tout simplement pas prêt à faire ce métier. En tout cas, elle est en train de le découvrir. Et puis de l'autre côté, vous avez ces acteurs de la médiation numérique historique, qui avaient plutôt pour vocation d'aider les Français à développer leurs compétences bureautiques, mais qui ne sont pas des experts des publics fragiles. Voilà. Et en plus, on l'a dit, ces publics fragiles peuvent être âgés, ils peuvent être jeunes, ils peuvent être migrants. Voilà. Et on sait très bien, l'entre-soi n'est pas toujours la meilleure... et permet aussi d'adapter des programmes, et c'est très difficile de tout mixer. Donc la mission première, c'est de développer ce nombre d'aidants. Alors comment? Alors déjà, la première chose, on travaille à former effectivement cette action sociale, institutionnelle et associative, en leur fournissant notamment des outils dans lesquels ils vont, des plateformes, on va dire, on appelle ça de e-learning, en tout cas où il y a des outils qui leur permettent de trouver toute l'information sur comment je deviens un aidant numérique, et des contenus pédagogiques pour les faire travailler sur les compétences numériques de base, ou alors sur les faire travailler sur accéder aux services essentiels. Typiquement, on a développé avec Pôle emploi un petit outil qui permet de s'entraîner sur comment j'actualise sur mon compte personnel ma situation vis-à-vis de Pôle emploi. Voilà, donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est peut-être d'étendre finalement les capacités de ces réseaux existants, parce qu'ils sont déjà très occupés. Voilà, et donc c'est une très belle mission, notamment pour ces services civiques, donc qui sont ces gens qui s'engagent pour des missions d'intérêt général, et pour eux, et on l'a beaucoup testé, c'est de pouvoir aider des gens à gagner leur autonomie numérique, constitue une très très belle mission. Et puis enfin, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on se prenne tous un peu en main, d'abord parce que ça touche souvent nos propres parents, cousins, amis, et que le bénévolat doit permettre massivement de traiter un sujet qui est un sujet d'hyper-proximité. Voilà, et qui répond bien à la problématique aujourd'hui des Français qui veulent faire des choses pour leurs voisins. Ben, prioritairement, ils veulent le faire pour quelqu'un qui est dans leur immeuble, à côté de chez eux. Ben, c'est ça toute la mission. Donc c'est de mettre en capacité tous les gens qui le souhaitent, toujours via des outils et des formations qui sont accessibles facilement, les mettre en posture de devenir des aidants avec un ensemble de prérequis, Il y a notamment pour les personnes les plus exclues, pour lesquelles il faut faire les choses avec ou à la, j'ai envie de dire très souvent, à la place d'eux, le risque qu'il peut y avoir, et qui n'est pas un petit risque, d'avoir des données personnelles de quelqu'un, données bancaires, oui, adresse mail, etc. Donc voilà, c'est, on peut faire beaucoup, alors, mais c'est,
vous,
ça
vous
mérite aussi un ensemble de prérequis.
Vous appelez d'une certaine façon une mobilisation citoyenne, il y a quand même aussi une vraie question politique. Philippe Marchal, il y a eu des plans numériques qui se sont succédés, on a une agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui maintenant s'empare aussi réellement de l'exclusion numérique, de l'électronisme. Vous, Philippe Marchal, qu'est-ce que vous demandez politiquement?
Politiquement, on demande pour qu'on puisse continuer à faire et faire de plus en plus, comme on vient de le dire. Pour bien faire, il faut connaître. Il faut déjà commencer par connaître, par mesurer l'ampleur des dégâts. C'est ce que nous avons fait avec cette enquête. Mais je crois qu'il faut aussi, je dis pas à la place de, mais aussi prendre les choses par l'autre bout du problème, c'est-à-dire du côté des éditeurs, concepteurs de sites. On a vraiment l'impression qu'il y a des sites qui sont construits de façon remarquable sur un plan technologique par des ingénieurs très brillants. On se demande si parfois est pris en compte le point de vue des usagers, le point de vue des gens qui vont être amenés à utiliser les sites. Et je pense qu'il y a certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire dans la fluidité et l'accessibilité des sites. Il y en a un certain nombre qui sont, on a le sentiment qu'ils sont un peu piégeux. C'est le cas pour certains sites de l'administration, pas tous, je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi le cas d'un certain nombre de sites.
Pour le secteur marchand, notamment.
Le secteur marchand, n'en parlons pas. Là, on est parfois dans la jungle la plus terrible et qu'on a le sentiment que tout n'est pas fait pour aider les gens à cheminer sereinement, avec des possibilités de recours, de retour en arrière, etc. Et ça, ça manque cruellement. Donc le but, c'est quand même de sensibiliser et de mobiliser peut-être aussi tout l'environnement du monde digital, les concepteurs de sites, vers quelque chose qui soit plus fluide et plus cohérent, plus facile pour les utilisateurs.
On donne la parole à une auditrice qui nous appelle de la région parisienne au 33 1 84 22 71 71. Ami, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Bonjour Ami.
Oui, bonjour. Manège Bastide.
Vous avez une question précise, je crois.
Oui, juste, voilà. C'est que je sais utiliser Google. J'aimerais juste savoir comment utiliser les réseaux sociaux, je ne sais pas, comme par exemple Facebook, Twitter.
Et vous cherchez un lieu pour apprendre, c'est ça?
Oui, voilà. Là, j'ai entendu que vous avez parlé du 19 numérique, mais vous n'avez pas donné l'adresse.
Oui, l'espace 19, on va mettre ça évidemment sur notre page 7 milliards de voisins. Vous allez sur le site hein, rfi.fr. Si, Ami nous a dit qu'elle sait aller sur Google. Donc vous pouvez aller sur la page 7 milliards de voisins, vous tapez ça sur Google et puis vous tombez sur notre page. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui écoutent cette émission qui se disent « Mais oui, voilà, moi j'aimerais aller dans une association où on va prendre des grands débutants, des moyens débutants. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un comme Ami?
D'abord, on voit bien que l'information est déterminante. Et effectivement, l'information qui est de plus en plus concentrée sur Internet pour des gens qui ne sont pas connectés, c'est problématique. Ou qui ont des réflexes, on va dire, limités ou des capacités limitées. Voilà, donc c'est pour ça que le monde social ou le monde de l'accompagnement ou le monde de la proximité, le voisinage, doit pouvoir avoir cette information.
Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Attendez-moi, mes enfants, ils ont autre chose à faire que de venir m'aider le week-end sur Internet. » Donc concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, il y a un maillage suffisamment étroit si une personne est déterminée, est-ce qu'elle peut trouver un accompagnement associatif?
Votre question est très facile, la réponse est non. Et c'est ce qui fait défaut, c'est qu'il n'y a pas ce maillage d'aidants à l'échelle de l'enjeu, loin s'en faut. Voilà, donc derrière,
il manque quoi? Combien de structures? Combien d'aidants? Combien de personnes pour aider les exclus du numérique?
Il en manque par milliers. Le plan d'inclusion numérique, c'est forcément, du coup, au regard des millions de personnes qu'il faut aider, c'est forcément un plan progressif. Donc, à la base, donc déjà, c'est, il faut mettre un peu d'argent et investir. C'est quand même trop dommage d'investir dans l'infrastructure massivement, hein, et ça coûte des milliards d'euros, et ne pas avoir pensé à mettre peut-être les quelques millions.
Vous voulez dire que la France gaspille ses talents dans les nouvelles technologies du fait du million de Français qui sont exclus. On parlait de 2,5 millions de personnes qui sont en situation d'exclusion du numérique.
Alors, oui, c'est une forme de gaspillage. Et d'ailleurs, on avait réalisé une étude sur l'opportunité financière ou économique de l'Internet pour tous. Et il y a un retour sur investissement qui est majeur. Donc oui, c'est déjà un gaspillage. Et puis surtout, c'est presque immoral. Enfin, c'est-à-dire de créer une société à deux vitesses dans laquelle on va exclure, de manière définitive, 10 à 15 % des Français, me semble... Enfin, inacceptable au regard même finalement de ce qui nous réunit aujourd'hui.
Avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on redonne la parole au continent africain. Nous sommes en ligne avec Christelle Nchoassirou à Abidjan. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Femmes et TIC. Donc TIC, on l'emploie encore souvent sur le continent africain. Ça veut dire technologie de l'information et de la communication. Donc ça veut tout dire. Dans quelle situation sont les femmes dans un pays comme la Côte d'Ivoire et en particulier dans la région d'Abidjan par rapport au numérique?
Alors dans l'ensemble, quand on regarde comme ça, on a vraiment l'impression que les femmes sont vraiment très portées par le numérique. Pour celles en tout cas qui sont éduquées, donc qui sont à l'école, scolarisées. Mais on a une très forte population de femmes analphabètes en Côte d'Ivoire de façon générale. Nous avons environ, d'après les chiffres de l'État, 47% de la population qui est analphabète, dont 60% de femmes. Donc les femmes qui ne sont pas éduquées, qui n'ont pas été à l'école ou qui sont sorties trop tôt du circuit scolaire, généralement, ont une approche numérique qui est très portée sur le téléphone portable.
Oui.
Alors, nous avons fait une enquête récemment, qui est un petit sondage qui a porté sur environ 200 femmes dans les deux régions d'Abidjan et de la vallée du Bandama. La vallée du Bandama touche essentiellement la région entre Boité et Korogo. Alors, sur une tranche d'âge de 25 à 40 ans, vous avez 90% de femmes qui utilisent intensément le téléphone. Et 60% environ utilisent l'ordinateur. Les usages d'Internet sont quasi tous les jours. Elle décrit un accès difficile à cause de la qualité des réseaux. Elle pense que l'Internet et tous les outils numériques sont un formidable levier d'autonomisation économique pour elle. Donc à peu près 80% pensent que cela contribue à leur indépendance à mieux gérer leur vie familiale et professionnelle, à leur visibilité et aussi à leur ouverture. Mmh. Elles ont un confort de navigation qui est moyen, donc environ 3, un degré de 3 sur une échelle de 1 à 5.
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir appelé Christelle Nchoassirou à Abidjan. On voit bien tout de même qu'il est difficile aussi de s'adapter aux différents publics. Je voudrais qu'on donne le mot de la fin à un auditeur qui nous appelle d'Atlanta aux États-Unis. Bonjour Mahomet.
Bonjour.
Vous êtes Camerounais, vous vivez aux États-Unis et vous êtes relié avec votre famille avec une application.
Oui, en fait... Nous avons pu former nos parents pour utiliser WhatsApp, ce qui nous permet parfois de rester en contact. Normalement, nos parents qui ne savent pas lire et ne peuvent pas écrire sur un clavier, nous avons demandé à nos jeunes frères d'apprendre à nos parents comment laisser, par exemple, un voice.
Ouais.
Oui, pour donner, par exemple, des nouvelles ou bien pour des réunions, par exemple, comme c'est la rentrée scolaire.
Merci Mahomet. Ce que je retiens de votre témoignage, Mahomet, surtout, c'est qu'effectivement, vos parents qui ne savent pas lire, ils sont formés à WhatsApp. Alors, est-ce que pour autant, ce sont des personnes qui ne sont plus des exclus du numérique? Toute la question reste ouverte. Juste un petit mot de conclusion, il nous reste quelques secondes, Philippe Marchal, sur la façon de régler en partie le problème pour réduire la fracture numérique.
Je crois que dans un premier temps, il faut continuer, on le fera sans baisser les bras, alerter, sensibiliser toutes les parties prenantes de cette problématique, de façon à ce que ce soit vraiment pris en compte, en développant bien sûr le nombre d'associations et le nombre d'intervenants pour former les gens, mais également, j'insiste un peu là-dessus, pour que les éditeurs et de sites travaillent plus efficacement à la simplification de leur site.
Merci à vous Philippe Marchal, merci à vous Jean Dédier. On se retrouve demain, même heure, même endroit.